VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 15h à Kigali. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Poursuite des affrontements à Difa dans le sud-est du Niger où un commando du groupe djihadiste Boko Haram s'est infiltré dans la ville mardi soir et a pris un certain nombre d'otages. Bilan provisoire, selon au responsable local, un sous-officier de la gendarmerie et deux djihadistes tués. Les assaillants traqués par les forces de sécurité se sont retranchés dans un domicile et les forces gouvernementales essaient de les déloger. La région de Difa est proche du nord-est du Nigeria, le berceau de Boko Haram. Et au Nigeria même, l'armée nigériane a affirmé ce mercredi avoir repoussé une attaque lancée la veille par Boko Haram contre la ville de Damaturu, dans le nord-est du pays, tuant de nombreux djihadistes et saisissant des armes. Cette attaque de mardi était la première contre le chef-lieu de l'État de Yobe dans le nord-est depuis fin 2014. En Libye, intensification des combats entre les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, qui sont en pleine progression sur le terrain, et celle du GNA, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, qui défend la capitale. L'aéroport international de Tripoli, inutilisé depuis 2014, est le théâtre d'affrontements à une trentaine de kilomètres de la ville. Le conflit s'aggrave à quelques heures de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU prévue ce mercredi. Les Nations Unies ont annoncé hier le report inédit de la conférence interlibyenne qui devait aider le pays à sortir du chaos. Irénée Hermanongbo.
L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, expliquera devant le Conseil sa décision de reporter une conférence nationale qui était prévue du 14 au 16 avril à Ghadames. En préparation depuis plusieurs mois, elle devait permettre de dresser une feuille de route à même de sortir le pays du chaos. Depuis jeudi, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, mène l'assaut vers Tripoli au prix de violents combats qui ont déjà fait des dizaines de morts et des milliers de déplacés. Il doit cependant compter dans sa progression avec le gouvernement d'union nationale qui a promis dimanche une contre-offensive sans précédent. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné l'escalade de la violence autour de Tripoli et appelé à un arrêt immédiat des combats. Il a exhorté toutes les parties à engager immédiatement le dialogue afin de trouver une solution politique. Les organisations internationales craignent que les civils ne fassent une nouvelle fois les frais de ces affrontements interlibyens. Quelques 3400 personnes ont déjà été déplacées par les combats, selon l'ONU.
Contestation en Algérie voisine au lendemain de sa nomination et malgré sa promesse d'un scrutin présidentiel transparent d'ici 3 mois, le chef de l'État algérien par intérim Abdelkader Ben Salah fait face aujourd'hui à de nouvelles manifestations et un appel à une grève nationale. À Alger, plusieurs milliers de manifestants gardés par un important dispositif policier sont rassemblés sur la place du 1er mai et près de la Grande Poste, les deux poumons de la contestation qui ébranle le pays depuis 7 semaines. Les Algériens ont clairement affiché leur refus de voir M. Ben Salah, ancien président du Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement, assumer l'intérim du pouvoir dans le pays. Toujours concernant l'Afrique du Nord, le président Donald Trump a reçu son homologue égyptien hier à la Maison-Blanche, ici aux États-Unis. L'occasion pour le chef de l'exécutif américain de louer le très bon travail du président Abdel Fattah al-Sissi en Égypte. Plus de détails avec Morgane Guiriec.
« Je pense qu'il fait un très bon travail », a lancé M. Trump, interrogé sur les efforts d'Abdel Fattah al-Sissi pour se maintenir au pouvoir après la fin de son deuxième mandat en 2022. L'ex-chef de l'armée égyptienne a destitué son prédécesseur islamiste, Mohamed Morsi, en 2013, avant d'être élu à la présidence un an plus tard. « Les relations entre l'Égypte et les États-Unis n'ont jamais été aussi bonnes », a assuré M. Trump, sans mentionner à aucun moment la question des droits de l'homme. C'est la deuxième fois que l'homme fort du Caire était reçu par M. Trump à la Maison Blanche, il n'avait jamais été invité par Barack Obama. Plusieurs amendements à la constitution égyptienne de 2014 doivent être prochainement soumis à référendum et cette réforme permettrait de renforcer les pouvoirs de l'exécutif et de l'armée et au chef de l'État de se maintenir à la tête du pays au-delà de 2022, année de la fin de son deuxième mandat.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président de la République centrafricaine en visite aux États-Unis, Faustin Archange Touadéra, s'est montré optimiste mardi à Washington quant à la réussite de l'accord de paix signé en février avec des groupes armés. Jean-Roger Bion.
Monsieur Touadéra a souligné que cet accord comporte des mesures sur des sujets cruciaux comme le partage du pouvoir. Il a débouché sur la formation d'un gouvernement incluant plusieurs membres des groupes armés. Ce nouveau gouvernement inclusif accorde davantage de portefeuille aux signataires de l'accord de paix conclu à Khartoum au Soudan début février. C'est le 8e signé depuis le début de la crise marquée par le renversement en mars 2013 du président François Bozizé par la SELECA, rébellion à majorité musulmane. Le président Touadéra a affiché son optimisme, indiquant que toutes les parties prenantes ont eu le temps nécessaire pour discuter tous les points qui ont fait l'objet de l'accord. Nous pensons que ça peut être le dernier accord si nous tous, nous nous engageons fermement à la mise en œuvre, a-t-il déclaré en marge d'une rencontre à l'Institut de la paix des États-Unis. Faustin Archange Touadéra doit rencontrer à Washington le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et espère encourager les investissements américains dans son pays. Il a rassuré sur l'influence grandissante de Moscou dans le pays en défendant son implication. Il y a de la place pour tout le monde en Centrafrique, a-t-il précisé.
Notre dossier du jour maintenant, deuil national au Rwanda pour commémorer le 25e anniversaire du génocide des Tutsis en 1994 qui a fait près de 1 million de morts en 100 jours du 7 avril au 17 juillet. Quel a été le rôle des médias dans cette tragédie? Notre envoyé spécial à Kigali, Idriss Fall, s'est entretenu avec Jean-François Dupaquier, journaliste français et auteur de plusieurs livres sur le génocide des Tutsis au Rwanda. On l'écoute.
Le rôle des médias était important à partir des années 1991-1992 lorsqu'a été créé le pluralisme des médias. Mais vous savez que le premier média de la haine, Kangoura, a été créé dès le début de l'année 1990. Il s'est montré particulièrement virulent après l'attaque du Front Patriotique le 1er octobre 1990 et a été en quelque sorte le phare de ces médias de la haine qui ont distillé leur venin dans la population pour inciter à tuer finalement les voisins Tutsis.
Mais le plus connu, c'était plutôt la radio des mille collines, non ?
Oui, mais la radio des mille collines est apparue plus tard. Elle est apparue en juillet 1993, à la veille de la signature des accords d'Arusha, et elle est devenue spécialement virulente à partir de la tentative de coup d'État au Burundi en octobre 1993. Et là, on voit bien un média typiquement d'incitation à la haine, d'organisation de cette incitation, et puis au moment où le génocide commence, d'animation du génocide, car la RTLM va être la grande animatrice sonore du génocide, alors que les autres médias de la haine ont pratiquement disparu.
Les journalistes qui exerçaient dans ces médias, ils sont où maintenant? Je sais qu'Hassan Gezé a été arrêté, jugé, et les autres?
Les journalistes, alors la plupart ont réussi à s'échapper, mais quelques-uns emblématiques ont été arrêtés, à commencer bien sûr par Ferdinand Naïmana, le fondateur de la RTLM, qui a été jugé, condamné, et puis récemment qui est sorti de prison au Cameroun. Hassan Gezé a été condamné lui aussi, n'est pas sorti de prison. Georges Roudjou, l'éditorialiste de la RTLM, a effectué pratiquement toute sa peine et a été libéré en fin de peine en Italie et il se trouve actuellement en Belgique, peut-être sous un nom d'emprunt car il ne veut plus parler de cette affaire et personne ne le voit plus. Et puis quelques-uns des journalistes sont morts au Congo pendant la guerre du Congo.
En France, il n'y en a aucun qui est là-bas, notamment Madame Abiyarimana qui a apparemment financé la radio des Mille Collines.
Elle et son mari sont parmi les financiers plus ou moins cachés de la radio des Mille Collines. Au départ, ils devaient même être les principaux financiers, puis après, ils sont un peu dissimulés derrière d'autres protagonistes, comme Félicien Kabouga, comme des hauts militaires. Mais elle n'est pas elle-même une journaliste, elle est simplement une personne qui a sans doute joué un rôle, mais qui reste à déterminer exactement dans l'organisation du génocide.
25 ans après, est-ce que vous pensez que le Rwanda est dans le droit chemin par rapport à la liberté de la presse? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de liberté de la presse aujourd'hui au Rwanda.
On est sorti d'une période extrêmement difficile, comme vous l'avez dit, de médias de la haine qui incitent la population à une sorte de suicide collectif, parce que c'est bien ainsi qu'on peut qualifier le génocide. Il est certain qu'aujourd'hui au Rwanda, la presse ne bénéficie pas de la liberté d'un certain nombre de pays démocratiques. On peut le regretter, mais je pense quand même qu'il y a eu des progrès ces dernières années.
Jean-François Dupaquier, journaliste français et auteur de plusieurs livres sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Il était interviewé par notre envoyé spécial à Kigali, Idriss Fall. Et pour terminer, Benjamin Netanyahou en Israël sur la voie d'un cinquième mandat de Premier ministre après le dépouillement de la presque totalité des votes aux législatives de mardi dans le pays. Des résultats qui le montrent nettement mieux placé pour former le prochain gouvernement. Merci de votre attention.